En introduction, avant de parler du synode, mais pour le resituer, je voudrais dire que le théologien que je suis, je ne pense pas être dans l'erreur, pense que le propre de la démarche de foi, c'est de vivre au risque de l'autre. Il y a un instant, Chantal me disait que, je ne sais plus, une postulante ou quelqu'un dit qu'elle voudrait être religieuse pour poursuivre le Christ. Ça ne mange pas de pain, mais ça ne se vit jamais sans l'autre. Et que suivre le Christ ou suivre Dieu, c'est très facile. Être avec l'autre, c'est très chiant. Et c'est ça le propre de la foi. Hein. C'est-à-dire que la foi chrétienne, alors on pourrait expliquer, hein, mais vous savez, c'est par exemple derrière ce que vous avez fait au cultiste à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire la foi chrétienne ne nous fait pas nous tourner vers un Dieu qui serait un en-soi extérieur. Elle nous, buffet de la révélation, elle nous rappelle que la seule rencontre véridique de Dieu, c'est l'autre. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais à l'étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, enfin vous connaissez tout cela. Donc, la foi, c'est vivre au risque de l'autre. Ce qui pour moi est très intéressant, c'est que ça interdit deux démarches qui ne sont pas de foi. La première démarche, c'est celle qui a analysé un homme, vous avez entendu parler, René Girard. Mmh. René Girard, anthropologue, a beaucoup travaillé sur la violence et la violence mimétique. Hein. C'est-à-dire que vous mettez deux personnes, l'une voudra ce qu'à l'autre et réciproquement. Caïn et Abel. Hein. Et René Girard dit que toute la civilisation, toute l'humanité, fonctionne sur cette violence mimétique et on en est sorti, parce qu'autrement tout le monde tue l'autre, on en est sorti avec le bouc émissaire. Et René Girard dit, Jésus casse la dynamique du bouc émissaire, puisque c'est, comme dira Saint Jean, ma vie nulle ne la prend, c'est moi qui la donne. Mais cette violence mimétique, c'est Poutine, c'est Trump, c'est Xi Jinping, etc. C'est-à-dire, de même que les gamins disent, j'ai une plus grande bite que toi, et ils se comparent leur zizi, de même, Trump veut avoir plus gros, il veut prendre le gros et là. On est dans cette logique-là. On n'est pas dans une logique de foi. Hein? Parce que la logique de foi, je répète, c'est de vivre au risque de l'autre. À partir du moment où l'autre est un ennemi, il y a même un politologue allemand qui a vécu en première partie du XXe siècle, qui s'appelle Carl Schmitt, qui dit « gouverner, c'est se désigner un ennemi ». Et on le voit bien d'ailleurs, vous savez, c'est la même question que vous voulez dire. À partir du moment où vous voulez diriger des gens, dites-leur quel est l'ennemi. Et ça va fonctionner alors. Tout le XXe siècle, tout fonctionne comme ça. Hein. Donc, ça, c'est la première chose qui s'oppose à la foi. La deuxième chose qui s'oppose à la foi, c'est le huis clos. Le huis clos, c'est pas la violence. Hein. Le huis clos, c'est chacun sa merde. J'avais un ami théologien qui m'avait dit, je suis frappé dans la banlieue parisienne, j'ai vu plein de pavillons avec mon paradis et en dessous, attention, chien méchant. C'est ça le huis clos. Et on a vécu le huis clos à fond pendant le confinement. Si vous aimez vos proches, ne vous en approchez pas. Là, on est dans l'inverse de la foi. Donc, l'inverse de la foi, l'inverse d'une démarche de foi, c'est la violence mimétique, c'est de toujours vouloir écraser l'autre. Hein. Et on est dans une époque comme cela, par des gens qui s'appuient beaucoup, au moins pour Poutine et pour Trump, sur la foi chrétienne. Xi Jinping, je ne sais pas sur quoi il s'appuie, mais au moins ces deux-là s'appuient sur la foi chrétienne. Bolsonaro s'appuie aussi sur la foi chrétienne. Hein. Donc, Judy Vance aussi. Hein. Donc, ça c'est ma première démarche d'introduction, donc revenir et se souvenir que on ne peut pas se passer de l'autre. Et ma copine Elena Lacida a écrit un très beau livre, Le goût de l'autre. Hein, vous savez, Elena Lacida a parlé sur Laudato aussi, Le goût de l'autre. Hein. Et donc, cette démarche de vivre au risque de l'autre, ça conduit à quatre exigences qui, pour moi, sont un peu des fondamentaux d'une démarche chrétienne de foi. Première exigence, la non-clôture. Alors chez vous, c'est normal. Marie-Amélie m'avait dit il y a 40 ans qu'elle travaillait là-dessus. Mais la non-clôture, vous voyez bien, la clôture, c'est aussi bien une clôture géographique des frontières, avec le problème des migrants, etc., mais c'est aussi la clôture dans notre tête.
Dans la tête. Hein?
Donc, la première exigence, c'est la non-clôture. Vous voyez bien qu'on est déjà un peu dans la question du synode. Hein? Parce que si je suis dans la clôture, si je pense, vous savez, avec les histoires de réseaux sociaux, moi je ne l'ai pas, mais on pense tous que ceux qui pensent comme moi ont raison, et on pense tous que ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons.
Oui.
Hein, c'est-à-dire qu'on, c'est très tranché, c'est blanc et noir. Hein. Et donc, on est dans la négation d'une démarche de foi. Le propre de la démarche de foi, c'est la non-clôture. Pour aller dans ce sens-là, parce que la théologie, c'est de réfléchir, hein, relisez le très beau texte du pape François sur la littérature. Hein, il a écrit cela pour les séminaristes. C'est un texte. Vous pouvez noter sur Google un texte du pape François sur la littérature. Il a fait deux textes. Pardon ?
C'est facile à lire.
C'est tout petit, oui. Il a fait un texte sur l'histoire, un texte sur la littérature. Hein. Et sur la littérature, il dit toute littérature, un roman policier, tout ça. Parce que justement, il écrivait, parce que les directeurs de séminaires disaient, les séminaristes ne lisent plus de théologie, ils lisent tout et n'importe quoi. Et François dit, mais toute littérature nous ouvre à l'autre. Vous voyez ? Toute littérature nous sort de nous-mêmes. Je lis une histoire d'un mec pervers, je découvre la perversité.
Oui,
je lis une histoire d'un Amérindien, je découvre les Amérindiens. Toute littérature, alors, toute littérature, tout voyage, tout accueil de l'étranger, tout. Donc, la première exigence de la foi, il y en a quatre, hein, c'est, si cette foi, c'est vivre au risque de l'autre, alors vous mettez autre avec un petit A ou un grand A, puisque dans la foi, les deux sont liés. Hein, et que je ne rencontre le grand A que quand je suis avec des petits A. Donc cette non-clôture est quelque chose qui pour moi est fondamental, alors que vous voyez bien que même en sortie de messe, on ne parle qu'avec des gens qui pensent comme nous. Et que parfois même dans des congrégations, dans des groupes de prêtres, etc., on n'est que dans l'entre-soi. Hein. Et une des choses qui m'avait marqué, je l'ai dit tout à l'heure, dans la phase tourangelle du synode, c'était le nombre de gens qui disaient que l'un des problèmes, c'était l'entre-soi. Deuxième élément donc, fondamental, si le premier c'est la non-clôture, c'est-à-dire toute porte qui s'ouvre est merveilleuse. Et d'ailleurs Jésus dira, je suis la porte. Toute porte qui s'ouvre est toujours fondamentale. Y compris si elle me conduit parfois à sortir de l'église. C'est pas seulement la porte qui me fait rentrer dans l'église, y compris si elle me fait prendre l'air. Deuxième élément fondamental de la foi, donc, c'est le décentrement. Alors le décentrement, ça me paraît évident, mais c'est pas du tout évident. Regardez ce qui s'est passé au moment de Galilée, quand on était sûr que la Terre était au centre, et que c'était les astres et le soleil, entre autres, qui tournaient. On en était sûr parce que dans Josué, il est écrit que Josué a arrêté le soleil. Et qu'il a fallu longtemps pour qu'on admette que Galilée avait raison. Et pourtant, elle tourne. Hein. Que je disais pour toi que, donc, après la non-clôture, comme exigence de la foi, il y a le décentrement.
Merci.
Le décentrement, c'est de découvrir tout bêtement que je ne suis pas le centre du monde, que la France n'est pas le centre du monde, que les catholiques ne sont pas le centre des religieux, que nous ne sommes pas le centre de l'univers. J'ai lu un livre merveilleux parce que j'accompagne mon ami Vincent Marie qui est astronome, et il m'a donné le goût de ça. Je disais un livre, c'est extraordinaire. Notre système solaire est au milieu d'une galaxie dans laquelle il y a des milliards de systèmes solaires et il y a des milliards de galaxies. C'est-à-dire nous sommes dans des milliards de milliards. Alors, se prendre pour le nombre du monde, c'est un peu court. Hein. Vous voyez bien que le décentrement, c'est difficile. Moi, je travaille beaucoup le décentrement avec les fiancés. Parce que souvent, je leur dis, vous en êtes de la foi. Souvent, ils me répondent, on ne va pas souvent à la messe. Je dis, vous n'y allez jamais. Oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas dit, on n'y va jamais. Et je dis, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous découvrez que vous n'êtes plus le centre du monde, ce que vous croyiez quand vous étiez ado, et vous découvrez en aimant quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui devient le centre de votre vie, normalement. Parce que de fait, j'ai déjà marié des gens qui étaient égoïstes l'un et l'autre, je ne sais pas si ça a duré, mais ils ne se décentraient pas. Normalement, si on n'est pas prêt, comme dit Paul, à se soumettre, vous savez, cette fameuse phrase où on garde que femme soit soumise à mon mari, se soumettre à l'un à l'autre, c'est dire je me décentre totalement. Moi, homme par rapport à toi, femme par rapport à moi, bon. Ce décentrement, je leur dis souvent, si vraiment vous en faites l'expérience et si elle est heureuse, peut-être que ça va vous éveiller sur un autre décentrement qui est de dire celui qui donne sens à ma vie, c'est pas moi, c'est lui. Et pour ça, je me mettrai à écouter sa parole, je me mettrai à le prier. Je peux parler au mur, mais je me décentre en priant. Et pour moi, c'est un des fondements premiers de la prière, c'est de me décentrer. C'est une non-clôture. Vous voyez, on est sur des fondamentaux, mais ça me paraît intéressant de se redire cela. Donc, premier fondamental, la non-clôture. Deuxième fondamental, le décentrement. Et on est tenu à cela tout le temps, tout le temps. Troisième, l'hospitalité. Vous savez, dans la lettre aux Hébreux, n'oubliez pas l'hospitalité. Il y en a même qui ont accueilli des anges, faisant référence à Abraham, au chêne de Mambre et anges. Et c'est vrai que on ne peut pas être dans la tradition biblique sans être interrogé, bousculé par la question de l'hospitalité. Mais ce n'est pas facile. Quelle place je fais à l'hospitalité? Bon, je viens chez vous, ce n'est pas d'hospitalité, c'est vous qui m'accueillez. Bon, cet après-midi, j'avais du mal à parler. Un gars qui ne va pas bien, bon, là, je fais de l'hospitalité. Mais c'est assez réduit, notre hospitalité. Hein. Un prêtre qui célèbre la messe, il ne fait aucune hospitalité, parfois il n'écoute même pas les gens. Vous voyez, l'hospitalité, c'est énorme, parce que derrière l'hospitalité, il va y avoir justement la question de l'écoute. Si j'accueille l'autre, c'est aussi pour découvrir l'autre. Hein? Son altérité, qu'il est. Et vous savez, derrière l'hospitalité, bon, le Christ y reviendra sans cesse, puisque le repas est au centre du projet du royaume de Dieu, avec les invités qui sont prévus, qui ne viennent pas. Et allez, il faut que la salle soit remplie. Chez Luc, c'est merveilleux. Il faut que la salle soit remplie. Chez Matthieu, c'est un peu plus emmerdant, parce qu'il y a un mec qui n'est pas dans la tenue, qui se fait virer. Bon, ça, c'est chez Matthieu. Mais l'enjeu, c'est de se dire comment l'Église vit cette hospitalité. Vous savez, je fais 50 ans, enfin, près de Prêtre-Lisandre-Tourelle, j'en ai vu des gens venant de Strasbourg ou de Montpellier disant « Les Tourangeaux, ils ne sont pas très accueillants. Ça fait 5 ans que je suis dans la communauté, personne n'a besoin de moi. » J'ai eu des catéchumènes, puisque j'accompagnais les catéchumènes, me dire, ben, j'ai demandé la semaine dernière si je pouvais faire une lecture. On m'a dit non, c'est déjà prévu. L'hospitalité, c'est pas simple. Hein. Parce que de fait, c'est j'ai révisé pour faire ma lecture, etc. Et je dis, ben, oui, c'est bien qu'une jeune glisse à ma place. C'est passer devant, après vous. C'est pas simple du tout, l'hospitalité. Et justement, l'hospitalité nous fait nous diminuer, un peu comme Jean-Baptiste, il est important qu'il grandisse, moi je diminue. Si j'accueille l'autre, c'est pour le valoriser, c'est pas pour l'écraser, pour faire mon boy. Hein. Enfin, quatrième dimension essentielle à la foi, devinez.
La confiance ?
Non, la synodalité. La non-clôture, le décentrement, l'hospitalité et la synodalité, c'est-à-dire je n'avance jamais seul. Et je reviens sur une cité, c'est très beau quelqu'un qui choisit le Christ, mais on n'avance pas tout seul. Et on avance souvent avec des gens chiants, vous avez remarqué. C'est pas simple. Voilà ce que je voulais dire un peu en introduction. La démarche de foi, c'est se vivre au risque de l'autre, donc éviter et la violence mimétique et le huis clos. Et c'est vivre au risque de l'autre qui est au cœur de la foi chrétienne, liée à l'incarnation. C'est à la fois la non-clôture, le décentrement, l'hospitalité et la synodalité. tout cela, donc, et entre autres, on va réfléchir à la synodalité, est une des modalités du vivre la foi. Hein. On pourrait réfléchir, partager sur l'hospitalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en œuvre de l'hospitalité, quels sont les gènes que l'on a dans l'hospitalité, etc. On réfléchir sur le décentrement, enfin, on pourrait prendre chacun de ces points, mais puisque le synode est sur la synodalité, on réfléchira sur la synodalité. Je voulais ajouter que je travaille pas mal sur des sociologues, etc. Je suis un peu comme Vincent aujourd'hui. Et les sociologues nous rappellent qu'on a tout de même deux catégories de gens, et vous le savez bien. Aujourd'hui, parmi les pratiquants, on a des plus de 60 ans, dont l'heure de gloire, ça a été de libéraliser l'Église. Enfin, les femmes pouvaient s'exprimer. Enfin, il y avait des filles qui servaient la messe. Qui servaient la messe. Enfin, ceci, enfin cela. Vous voyez, des gens qui ont l'impression que si l'Église a bougé, enfin, que ce qui fait leur heure de gloire, c'est globalement, et trente glorieuses, hein, ce qui fait leur heure de gloire, et c'est les baby boomers, c'est qu'on a fait bouger les choses et qu'on les a fait évoluer. Et généralement, les gens pensent dans le bon sens. Le problème, c'est que les moins de 30 ans pensent exactement l'inverse. On s'est compromis avec le monde et on a perdu notre identité. Donc il faut à tout prix que la démarche chrétienne soit une démarche qui nous enracine dans notre différence. Parce qu'autrement, on deviendra insignifiant dans ce monde. Moi, à 78 ans, j'en ai rien à foutre d'être indifférent. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai jamais mis de tenue. Si, quand j'ai déjeuné avec Jean-Paul. Mais autrement, je n'ai jamais mis de tenue spécifique parce que j'ai aucune envie d'être différent pour des jeunes de moins de 30 ans, voire de moins de 40. C'est fondamental de poser une différence. C'est fondamental de ne pas être dans la logique de ce monde, parce que la logique de ce monde est une logique de Canada Dry, où tout est équivalent. Et d'ailleurs, je me souviens, le catéchisme disant des conneries, Mahomet, Jésus, Allah, tout ça, c'est la même chose. Et ça s'est transmis dans énormément de mauvaises oreilles. Parce que c'est de la connerie, hein. C'est de la connerie de dire ça. Mais, si vous voulez, à l'époque, on pensait que l'important, c'était pas de manifester les différences, c'était de dire, on prie tous Dieu, et donc c'est ça ce qui est important. Et moi, j'ai fait les sépultures, des mariages et des baptêmes, avec des textes qui n'étaient pas de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'interdis. Parce que ça me semblait intéressant de prendre un texte du Petit Prince, de prendre un texte de Raleigh Gibran, de Rabindranath Tagore, etc., en disant, vous voyez, on peut être ouvert à une vie et l'amour, il n'y a pas que le Christ qui en parle. Ça nous paraissait une manière, j'allais dire, d'être de ce monde. Hein? C'est exactement l'inverse que ressentent les jeunes.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, et vous voyez bien qu'un évêque ou un prêtre ne va pas commencer par dire « Les jeunes, j'en ai rien à foutre. » De toute façon, les vieux resteront. Même s'ils sont malheureux, ils resteront. Donc l'enjeu, parce que les jeunes, si, c'est pas qu'ils s'en vont, mais ils vont à Carlo-Acutis, ils vont à Parcébélé, etc. Hein, si moi, je laisse entendre que dans ma paroisse, on est dans la doctrine des baby-boomers, ben, la plupart iront voir ailleurs. Donc ça, c'est, si vous voulez, pour moi, c'est une vraie... Vous voyez, quand on fait le travail théologique, c'est par rapport au terrain, c'est pas de trucs intellectuels. Je dis, comment vivre ce goût de l'autre? Comment vivre ce risque de l'autre? Parce que ce risque de l'autre, c'est les moi de discuter avec des gens comme vous. Je vous connais tous depuis tellement d'années. Et je sais que je ne serais pas beaucoup surpris, sauf si l'un ou l'autre dit quelque chose qui me déplaît, mais ça ne sera pas grave. Et de discuter avec des jeunes de 30 ans. Séminariste ou pas. C'est pénible. C'est pénible. Donc la démarche synodale, vous voyez, c'est là où j'ai le problème, c'est pas de savoir ce qu'on va faire. Quels sont les progrès qu'on va faire? C'est comment entrer dans ces démarches. Comment, moi, 78 ans, je ne vais pas être dans ma clôture en disant il n'y a que nous qui avons raison. Comment je vais me décentrer une nouvelle fois, je me suis décentré pas mal de fois, par rapport à ce que pensent des jeunes. Comment je vais vivre une hospitalité en déjeunant avec tel ou tel prêtre et en essayant de sentir ce qu'il ressent, ce qu'il vit, etc. Comment je vais marcher avec, c'est ça la synodalité. Ok ? Bien. Je trouve que ça valait la peine de se redire des choses comme ça. Alors, quelques mots, je puis j'ai plusieurs points, on verra. Le premier point, c'était d'un retour, alors je ne savais pas si j'allais parler à 200 personnes, bon, retour sur le processus synodal, j'en dis quelques mots, mais je pense que vous, c'est quelque chose de clair. Vous savez, le processus synodal a été démarré en 2021 par une consultation mondiale. Moi, j'étais le responsable pour la Touraine, et on a eu 250 groupes avec environ 2500 personnes qui ont répondu. Et je peux dire devant mon ami Chantal que certaines choses qu'elle m'a partagées, le groupe, etc., étaient beaucoup plus intelligentes que ce que certains groupes de paroisses disaient. Parce que les groupes de paroisses qui s'exprimaient disaient « il faudrait que M. le curé fasse ceci, il faudrait que M. le curé fasse ça ». C'est-à-dire qu'au lieu de dire comment nous avançons, les cathos, quand on leur donne la parole, c'est par rapport à M. le curé qu'on se situe. Et c'est râpé, c'est plus la synodalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous savez que les jeunes prêtres, entre autres, mais beaucoup de prêtres, ne sont pas du tout rentrés dans le processus synodal. Donc, consultation. Alors, il n'y avait pas que les religieuses, qu'on dit des choses intelligentes, tous les gens qui étaient dans des mouvements. Toutes les réponses de mouvement, parce que les gens dans un mouvement, ils sont un aumônier, mais l'aumônier, il ferme sa gueule. Enfin, il dit des choses parfois, mais je n'ai pas à réclamer que l'aumônier fasse ceci ou cela. Alors que ce n'est pas normal que M. le curé fasse ça, ce n'est pas normal que M. le curé. Ce qui n'avait rien à voir avec les démarches. Je suis clair. Et c'est là-dessus où Rome, François, et ça, on n'est pas dans un parlement. Ce n'est pas des cahiers de doléances. Et on a sans cesse à revenir, vous voyez, de même, l'hospitalité, ce n'est pas un cahier de doléances. On doit accueillir. On doit écouter. Ça veut dire quoi ? Bon. On doit se décentrer. C'est-à-dire, voyez, on n'est pas dans un cahier de doléances. On est dans une démarche de foi qui nous invite à creuser. Donc, le processus synodal en octobre 21, consultation mondiale. En juin 22, on fait une synthèse nationale. J'étais avec Vincent Jordi à Lyon. Cette synthèse nationale est devenue une synthèse continentale à Prague. Et il y a eu, en octobre 22, un document de travail, un instrumentum laboris. Octobre 2023, la première session du synode romain, avec particularité, il faut tout de même le dire, 25% de non-évêques. Donc, une bonne part de femmes. Un synode des évêques, dont un quart ne sont pas évêques. Mais on peut être critique sur l'Église, et bon, je suis aussi parois, mais regardons ce qui bouge, s'il vous plaît. Un quart des membres du synode n'étaient pas des évêques, alors que c'est un évêque, un synode des évêques. Et vous savez, donc, ils se sont mis en table de 12, avec ce lancement de ce qu'on a appelé la conversation spirituelle. La conversation spirituelle, je pense que ici, dans cette maison, vous ne faites que ça. La conversation spirituelle, ça veut dire que quand quelqu'un parle, je ne le contredis jamais. Ce qu'on fait tout le temps. Et donc, si je parle, si Chantal parle, elle parlera non pas par rapport à ce que j'ai dit, mais par rapport à ce qu'elle a envie de dire. Et chacun d'entre vous fera la même chose. Et dans un deuxième temps, relisant le texte ou le point sur lequel on doit réfléchir, on dira comment ce que les autres ont dit, vous voyez, le décentrement, comment ce que les autres ont dit m'interpelle, me nourrit, etc. Mais c'est jamais sous mode « je ne suis pas d'accord ». Alors qu'on est tous dans cette logique « je ne suis pas d'accord ». C'est là où c'est difficile. C'est pour ça, quelle que soit la question, pas besoin d'aborder la question du sacerdoce des femmes, ou du mariage des prêtres, n'importe quelle question, L'enjeu, c'est de sortir du pas d'accord. Et donc, permettre à cette démarche synodale de se poursuivre, c'est sortir de la tentation constante du pas d'accord, alors qu'il est énorme dans les réseaux sociaux, bien sûr. Vous savez que le document de synthèse, donc, à la fin d'octobre 2023, aura 70 propositions pour faire travailler, réfléchir. Là-dessus, il y a 10 groupes de travail théologique qui sont mis en place, et vous savez qu'un des groupes de travail théologique vient de sortir le 4 décembre 2025. Sa réponse était sur le diaconat féminin, en disant non. C'est un groupe de travail. Il y a des questions, il faut que les théologiens nous aident à travailler. C'est un état de la question, et d'ailleurs tout le monde dit, c'est un état, il va falloir continuer de réfléchir. Octobre 2024, la deuxième session du synode, 368 membres, 272 évêques, 96 non-évêques. 96 sur 368. Vous savez que cette session, donc la deuxième session, elle a été précédée par une célébration pénitentielle qui avait marqué, parce qu'il semble que cette célébration pénitentielle était totalement de la main de François et qu'il a fait dire des choses par sept cardinaux. C'était sept péchés de l'Église. Premièrement, j'en veux un des sept, le manque de courage dans la recherche de la paix. La mondialisation de l'indifférence par rapport aux abus, la complicité dans les abus de conscience. Vous avez vu dans la croix d'aujourd'hui nos sœurs bénédictines. Quatrième, c'est la dignité de la femme insuffisamment reconnue. Et donc, c'était des péchés de l'Église. Hein. Et c'est tout à fait la main de François. Il avait porté à chaque fois un cardinal. Cinquième péché, l'inertie envers les pauvres. Pensez immédiatement à...
Fraternité.
Non, plus loin. Dilexité, bien sûr. Dilexité, qui est fondamentale, c'est un texte que moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si un jour je vais proposer, mais c'est plus à mon âge, c'est plus à moi de décider. Je vais proposer qu'on fasse un travail là-dessus. Parce que c'est un texte fondamental sur, justement sur cette priorité des pauvres. Sixième, l'endoctrinement de l'Évangile, c'est très intéressant. Utiliser l'Évangile pour le pervertir. Ça, beaucoup de gens, pas seulement Trump, beaucoup de gens utilisent l'Évangile pour pervertir. Enfin, dernier péché, les obstacles à la synodalité. C'est trop ceci, c'est pas, c'est cela, c'est trop long, c'est trop vain. Tous les obstacles qu'on met. Et je connais beaucoup de gens qui sont pécheurs devant ça. Donc c'est intéressant, si vous voulez, c'est que c'était tout de même très officiel. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ces sept péchés, cette célébration pénitentielle. C'est intéressant de se dire, François voulait qu'avant de réfléchir, on se rend compte qu'on est à côté de la plaque. Et vous voyez, le péché de la dignité de la femme insuffisamment reconnu, je le dis, c'est bien plus large que le sacerdoce des femmes. Alors peut-être qu'il faudra travailler le sacerdoce des femmes. Mais la vraie question, parce que pensez pas seulement à la France, pensez à l'univers. La vraie question, c'est les femmes qui sont prises pour des connes par leur mari dans une bonne partie de la planète. Et j'en passe des meilleurs. Donc je veux dire que c'est à ce niveau-là qu'il faut se dire, non pas comment vous devez changer, mais comment on va s'écouter. Pas simple, moi je vois simplement avec nos amis prêtres noirs. Je les aime bien, en plus ils sont gentils. Ils m'appellent tous grand frère, parce que je suis vieux et que j'ai été vicaire général. Mais ils ont un sacré rapport à la femme. Et c'est pas facile d'en parler. Vous voyez, mon problème, c'est pas qu'il change, c'est qu'on s'explique qu'est-ce qui fait que dans ta tête, c'est ça une démarche synodale, c'est comment est-ce qu'on pourrait lire ensemble un texte sur la dignité de la femme, ou je ne sais pas quoi, et qu'on puisse parler avec les prêtres africains pour, non pas les changer, mais comprendre d'où vient cette manière de parler. Mais combien vous avez d'hommes, pas prêtres, mais d'hommes français, qui auraient besoin de partager sur la femme. Donc, si vous voulez, c'est ça ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que derrière tous ces points, le manque de courage dans la recherche de la paix, hein, alors on peut dire, bah, j'ai à m'occuper ni de l'Ukraine, ni de Gaza, ni de l'Iran, bah oui, mais ce problème, c'est dans ma famille où c'est la merde, qu'est-ce que je prends comme moyen pour faire avancer la paix. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'est la synodalité. Je ne reprends pas chacun, donc je vais redire rapidement, donc, parce que pour moi c'était très important. Manque de courage dans la recherche de la paix, mondialisation de l'indifférence, complicité dans les abus et entre autres les abus de conscience, dignité de la femme insuffisamment reconnue, inertie envers les pauvres, endoctrinement de l'évangile, obstacle à la synodalité. Vous savez que la deuxième session du concile, du synode, pardon, c'est conclu par un document final. Alors là, j'ai un résumé parce que, comme je trouvais que ça prenait trop de pages, j'ai pris que les bonnes pages. Enfin, j'ai sélectionné tout ce qui est. Et donc, ce document final du mois d'octobre, du 26 octobre 2024, est le document final qui a été envoyé à l'Église universelle, puisque le pape François a dit, je n'ai rien à rajouter, c'est le magistère du pape qui s'exprime là. Ce qui est énorme aussi. Le magistère du pape, ce n'est pas un truc nouveau, c'est des gens qui ont réfléchi, dont des femmes, dont des dons, dont des évêques, etc., c'est le magistère du pape. Vous voyez, il y a des signes qui disent des choses qui sont intéressantes. Voilà. C'était mon premier point, en dehors de mon introduction, sur ce processus synodal, qu'il soit clair, pour qu'on voit un peu l'autre. C'est un processus, et vous savez, François aimait bien parler de processus, un processus n'est jamais fini. C'est comme une évangélisation, c'est un processus, c'est jamais fini. Il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on a acheté une catéchisme de l'Église catholique, c'est fini, ça y est, tout va bien. Ah non, l'évangélisation, c'est un processus sans fin.